semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 27 septembre, ravi de vous retrouver. Après notre escapade au siège de l'AFP samedi dernier, retour au studio 43 de RFI. Comme d'habitude, nous allons vous offrir un résumé de 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction. Cette semaine, notre invité est Bertrand Badi, un expert des relations internationales. Bonjour Bertrand Badi.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités à Sciences Po, co-auteur notamment, parce que vous avez écrit d'autres livres dont on a parlé dans cette émission d'ailleurs, co-auteur avec Dominique Vidal de L'État du Monde, dont l'édition 2015 vient de sortir. Elle est intitulée « Nouvelle guerre ». Nous y sommes dans la guerre. Nous continuons à l'être.
Tout à fait. Hélas, lorsqu'il y a quelques mois, nous avons choisi ce thème, nous ne pensions pas tomber aussi juste. C'est-à-dire que le système international aujourd'hui est confronté à quelque chose de gravissime. Les conflits ont profondément changé dans leur nature, dans leur cause, dans leur modalité, et on les traite. Les décideurs, les acteurs politiques, les gouvernants les traitent comme les guerres d'autrefois. Remarquez une chose qui donne déjà une idée de l'innovation. Depuis 1945, y a-t-il une guerre qui a été gagnée par quiconque? Désormais, on ne gagne plus les guerres. Parce que les guerres ne sont plus une compétition de puissance, comme elles l'étaient autrefois, un choc d'État, comme ils ont pu l'être pendant des siècles et des siècles. Ce sont maintenant des conflits qui viennent des profondeurs des sociétés, qui viennent des souffrances humaines, des souffrances sociales. Et ça, c'est pas avec l'instrument militaire que l'on peut guérir.
Alors, Bertrand Badi, la mort d'Hervé Gourdel, enlevé dimanche en Algérie et décapité mercredi par ses ravisseurs en représailles aux frappes aériennes françaises contre l'organisation l'État islamique en Irak, va être au cœur de cette session, évidemment. Écoutez, François Hollande, ce jour-là, alors qu'il était à l'ONU à New York.
Hervé Gourdel est mort parce qu'il était français, parce que son pays, la France, combat le terrorisme. Hervé Gourdel est mort parce qu'il est le représentant d'un peuple, le nôtre, qui était pris de liberté et qui défend la dignité humaine contre la barbarie. Ma détermination est totale et cette agression ne fait que la renforcer. Nous continuerons à lutter contre le terrorisme partout. Et notamment contre le groupe qu'on appelle Daesh et qui répand la mort en Irak, en Syrie, qui poursuit des populations civiles, persécute des minorités religieuses, viole, décapite. Oui, c'est contre ce groupe que la France s'est mobilisée et a été appelée par les autorités irakiennes. Aussi, les opérations militaires aériennes, puisqu'il n'y a pas de troupes au sol. Ces opérations militaires se poursuivront tout le temps nécessaire.
Et la France a mené de nouvelles frappes aériennes en Irak. Ces derniers jours, nous en reparlerons tout à l'heure et décrété la mise en berne du drapeau tricolore pendant ce week-end. Dans la nuit de lundi à mardi, Bertrand Badi, la coalition mise en place pour lutter contre l'organisation de l'État islamique a frappé en Syrie les forces américaines, notamment. Écoutez cette fois Barack Obama, mardi.
La nuit dernière, sur mes ordres, les forces américaines ont lancé des frappes aériennes sur des cibles de l'organisation de l'État islamique en Syrie. Nos amis et partenaires ont participé à ces opérations, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, Bahreïn et le Qatar. L'Amérique est fière de présenter un front uni avec ses nations pour assurer notre sécurité à tous. La force de cette coalition démontre au monde entier que ceci n'est pas seulement le combat des États-Unis, ce sont surtout les peuples et les gouvernements du Moyen-Orient qui rejettent le I et qui s'élève pour défendre la paix et la sécurité que les populations de la région et le monde entier méritent. En même temps, nous poursuivons nos projets soutenus par le Congrès américain d'entraîner et d'armer l'opposition syrienne, ce qui constitue le meilleur contrepoids à l'EI et au régime d'Assad. Cette stratégie va prendre du temps, nous avons encore des défis à relever, mais nous allons faire ce qu'il faut pour combattre ce groupe terroriste pour la sécurité de notre pays, de la région et du monde entier.
Sept jours dans le monde.
Et avant de vous retrouver, Bertrand Badi, revenons sur le sommet extraordinaire sur le climat qui se tenait mardi à l'ONU, toujours l'ONU, envoyé spécial Anne-Cécile Bras, mercredi.
Ban Ki-moon a ouvert la conférence en déclarant « Nous ne sommes pas ici pour parler, mais pour écrire l'histoire ». Et c'est vrai que c'était une première historique, réunir autant de chefs d'État et de gouvernement confrontés aux réalités des dirigeants des sphères économiques. Si les annonces politiques n'ont pas été à la hauteur des attentes, l'essentiel est ailleurs. Créer une dynamique pour que le climat devienne une priorité dans l'agenda. Une ambition à décliner au niveau national par tous. Bien sûr que l'on attend des résultats concrets, les catastrophes naturelles font désormais plus de dégâts que les guerres, mais la machine est lourde et complexe. 196 pays sont face à un défi auquel l'humanité n'a jamais été confrontée. Les discussions informelles qui se sont déroulées hier à New York ont permis de créer la confiance dont les États ont besoin pour s'engager enfin vers des politiques audacieuses. L'objectif est donc atteint. Reste à savoir s'il se transformera en acte. Le premier test sera début décembre à Lima, au Pérou. Les États devront rédiger les bases de l'accord de Paris en décembre 2015 qui engagera enfin tous les pays du monde à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre.
Suite d'une semaine d'actualité, donc en compagnie de Bertrand Badie, le sommet sur le climat, il y a un réel enjeu en ce qui le concerne, mais aussi en quelque sorte une réelle indifférence, non ?
Je ne dirais pas exactement de l'indifférence, mais un calcul qui me paraît effectivement très dangereux. Lorsque les différentes composantes de ce que l'on appelle la communauté internationale ont besoin d'un accord rapide, ils le trouvent très facilement. Regardez l'aviation civile, si les pilotes d'Air France sont pas en grève, l'ensemble des aéronefs dans le monde circulent parce qu'il y a un régime international extrêmement sophistiqué que tous les États de la planète ont pu négocier, de la Corée du Nord jusqu'aux États-Unis, et qui permettent à la planète de tourner avec les moyens modernes de transport. Avec les questions d'environnement, ce n'est pas le même scénario et donc ce n'est pas le même calcul. Le calcul est beaucoup plus cynique, à savoir les effets négatifs d'une absence de régime protégeant l'environnement ne se feront sentir que dans un grand nombre d'années lorsque les dirigeants en place aujourd'hui ne seront plus au pouvoir. Ouais. Et donc il y a un jeu politique redoutable qui consiste à dire la gouvernance d'accord lorsque le besoin est immédiat. Lorsque le besoin est différé, on préfère les avantages du court terme, et les avantages du court terme, c'est le chacun pour soi. C'est quelque chose de bien connu. Donc c'est pourquoi on n'arrive pas depuis des années maintenant, des décennies, hein, si on se rappelle Rio 1992, ça fait donc déjà plus de 20 ans que cette affaire est lancée, il y avait encore des préalables à Rio, on n'avance pas, je crains que ce soit ainsi, c'est l'effet bizarre, dangereux et décevant de ce mélange de mondialisation, qui est la réalité technologique de notre monde, et de résistance souverainiste, qui est la banalité quotidienne des États qui composent la planète.
Alors Bertrand, reparlons des nouvelles guerres, pour reprendre le titre de l'État du monde 2015, publié aux éditions La Découverte. Donc, David Cameron, le Premier ministre britannique, disait hier, vendredi, que cette intervention en Irak prendrait des années.
Il aurait dû dire prend des années parce que l'affaire irakienne, elle a commencé en fait en 1990. Faut quand même pas l'oublier. Première guerre du Golfe. Et nous en sommes maintenant en quelque sorte à la troisième étape. Certains parlent de quatrième étape, peu importe. C'est-à-dire que le processus de gestion de la question irakienne a eu pour principal effet de décomposer complètement un État, d'opposer les communautés de plus en plus violemment les unes contre les autres, de créer une situation de malaise social et de défaut d'intégration sociale qui rend cette société complètement décomposée et porteuse de plein de souffrances. On n'en parle jamais, mais je veux dire, une société qui ne fonctionne pas, c'est une société qui souffre.
C'est au cœur de vos derniers livres, hein, d'ailleurs, il faut le préciser, Bertrand Badie.
Parce que je crois que c'est vraiment la racine du mal, n'est-ce pas ? Et donc, face à cet état de décomposition avancée, on choisit une très curieuse réponse, c'est-à-dire d'accélérer le processus de décomposition, c'est-à-dire de frapper. Et face à un conflit qui est, en ce moment, un conflit sud-sud, c'est-à-dire qui oppose les composantes irakiennes les unes aux autres, on choisit par une intervention de l'OTAN, Atlantique Nord, vous savez que l'Irak borde l'Atlantique, eh bien on choisit avec l'OTAN d'en faire un conflit nord-sud. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que c'est ce que les entrepreneurs de violence attendent. Monsieur El-Baghdadi, le fameux calife, ne demandait que ça. Pourquoi croyez-vous qu'il a commis ces gestes d'une cruauté énorme de décapiter des journalistes américains, britanniques et de ce malheureux compatriote avant-hier ? Uniquement pour provoquer effectivement cette entrée de l'Occident dans un conflit. Mais bien entendu, l'Occident dans un conflit, ce conflit change de nature, ça redevient un conflit Occident-monde musulman, ou appelons-le comme on veut, en tous les cas Nord-Sud, et ça c'est une catastrophe, et c'est un effet d'aveuglement, moi qui en tant qu'observateur me terrifie.
Une semaine d'actualité.
Alors Bertrand Badi, revenons justement sur l'intervention des États-Unis contre l'organisation de l'État islamique de la coalition en Syrie. Elle a donc commencé lundi soir, un an après la menace de frappe contre Bachar el-Assad. Nicolas Falaise.
Septembre 2013, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne préparent des frappes contre le régime de Bachar el-Assad, accusé d'avoir utilisé des armes chimiques contre la rébellion. Mais au dernier moment, les États-Unis font volte-face et finalement rien ne se passe. Septembre 2014, des frappes américaines ont bien lieu en Syrie, mais l'ennemi n'est plus le même. Désormais, ce sont les djihadistes de l'État islamique qui incarnent la principale menace et plus Bachar el-Assad. Le contexte a changé, mais pas le discours officiel de la Syrie, qui se décrit depuis le soulèvement de 2011 comme un pays en guerre contre le terrorisme. En soutenant des frappes aériennes qu'elle n'a pas sollicitées, la Syrie de Bachar el-Assad tente de s'imposer comme un partenaire naturel dans la lutte contre l'EI, alors que la coalition emmenée par les États-Unis rejette toute idée de coordination avec le régime de Damas, préférant soutenir et équiper les rebelles de l'opposition modérée. Cette stratégie des Américains, des Européens et de leurs alliés arabes pourra-t-elle tenir sur le long terme ? Bachar el-Assad fait certainement le pari inverse.
Les États-Unis ont intensifié leur frappe mercredi en Syrie, visant des raffineries contrôlées par le groupe État islamique, au moment où le président Barack Obama appelait à l'ONU le monde à s'unir face à la menace djihadiste. Certes, il y a l'organisation de l'État islamique, mais les États-Unis ont aussi, semble-t-il, dans leur viseur une autre organisation encore plus dangereuse, si tant est que cela soit possible, un groupe appelé Khorasan. Daniel Valo.
C'est le directeur du renseignement américain James Clapper qui a été le premier il y a quelques jours à confirmer officiellement l'existence de ce mystérieux groupe djihadiste qui serait aux yeux des États-Unis encore plus dangereux pour les intérêts occidentaux que l'organisation de l'État islamique. Selon des informations qui proviennent pour l'essentiel des services de renseignement américains, le groupe serait formé d'anciens dirigeants d'Al-Qaïda, des vétérans du djihadisme international qui auraient profité de la guerre civile en Syrie pour trouver un nouveau refuge et surtout un nouveau lieu de recrutement. Toujours selon ces informations, le groupe Khorasan aurait eu pour ambition de recruter en Syrie des ressortissants européens et américains venus se battre contre le régime de Bachar el-Assad. À l'inverse de l'organisation de l'État islamique qui concentre ses efforts sur la Syrie et l'Irak, le groupe Khorasan aurait eu pour ambition majeure de semer la terreur en Europe et aux États-Unis. En lançant des frappes aériennes sur le territoire syrien, les États-Unis ont donc voulu à la fois contenir la menace que représente l'organisation de l'État islamique et affaiblir un groupe qui était sur le point, affirme Washington, de lancer des attaques majeures contre des cibles occidentales.
Sachez aussi que mercredi, un conseil de sécurité présidé par Barack Obama, toujours lui, et qui rassemblait aussi 27 autres chefs d'État et de gouvernement, a adopté une résolution contraignante pour empêcher le départ de djihadistes étrangers en Syrie et en Irak. À noter également dans l'actualité internationale que l'Afghanistan a un nouveau président. Un accord de partage du pouvoir a en effet désigné Ashraf Ghani après des semaines de confusion, de rivalité même entre lui et Abdullah. Une semaine d'actualité, toujours en compagnie de Bertrand Badi. C'est un plaisir à chaque fois de vous recevoir. Cette fois, vous venez pour la nouvelle édition de l'État du Monde, intitulée Nouvelle Guerre. On est au cœur de l'actualité avec vous. On va commencer avec l'Afghanistan. On a appris hier qu'il y avait eu entre 80 et 100 morts dans une offensive talibane en Afghanistan, donc à quelques mois du départ des Occidentaux.
Oui, et à nouveau, la même réflexion, c'est presque, hélas, un refrain. Qu'est-ce que l'instrument militaire aussi généreusement mobilisé par les puissances occidentales en Afghanistan peut faire face à cette situation ? Vous savez, on a souvent parlé, nous l'expliquons dans le livre, de guerre asymétrique. Je n'ai pas employé ce terme, je ne l'aime pas, parce que guerre asymétrique donne l'impression qu'il y a simplement un déséquilibre quantitatif. Mais en réalité, il n'y a rien de commun entre les armées occidentales d'une part et ces milices, ces bandes, souvent, et on ne le dit pas assez, ces enfants soldats qui se trouvent de l'autre côté. D'un côté, vous avez une émanation de l'État, des États qui utilisent un instrument militaire, et de l'autre, vous avez des sociétés en situation de décomposition et de violence diffuse. Et ce qui est tout à fait remarquable et inquiétant, c'est que tout vient alimenter cette violence sociale diffuse qui est le nouveau reflet, la nouvelle image des conflits aujourd'hui. C'est l'absence d'emploi, c'est la faiblesse du développement humain. Un enfant soldat, vous savez, il y a dans le monde aujourd'hui officiellement 300 000 enfants soldats. Mais comme l'UNICEF considère qu'un enfant soldat ne concerne que les populations en dessous de 16 ans, et ne tient pas compte des 16-18, on peut aller jusqu'à 500 000. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ces 500 000 enfants soldats qui sont présents dans toutes ces milices, en Irak, au Mali, en Centrafrique, en Afghanistan? C'est tout simplement une jeunesse désœuvrée qui n'a de chance pour se nourrir, pour se vêtir, pour se loger et pour être respectée, pour être considérée, que de prendre cet uniforme terrible qui est l'uniforme du combattant.
Alors quel est précisément, Bertrand Badi, votre regard sur cet État islamique, sur cette organisation de l'État islamique que Jean-Pierre Filu qualifie de secte mafieuse?
Oui, d'abord, moi, je pense qu'il ne faut pas ranger ces phénomènes nouveaux dans des catégories préconstruites. Personnellement, j'ai considéré toujours qu'il y avait dans ce monde tel que je viens d'essayer de le décrire des entrepreneurs de violence. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur de violence? C'est celui qui veut tirer profit de l'extrême désarroi et de la totale décomposition de la société. Je parlais de la décomposition sociale et économique, il faut parler aussi de la décomposition institutionnelle, c'est-à-dire l'absence d'État, l'absence de structure d'autorité, et puis aussi l'exclusion. Les sunnites irakiens ont été complètement exclus, totalement exclus par le pouvoir chiite de Bagdad, et ces logiques d'exclusion qu'on retrouve au Sahel, par exemple, avec les populations du nord du Mali, c'est-à-dire autant Touareg que arabes, ces populations qui se sentent totalement exclues, évidemment, se tournent vers ces offreurs de violence. Alors, ces offreurs de violence, c'est vrai qu'ils ont des liens extrêmement forts avec les mafias. Ce sont des liens instrumentaux, c'est-à-dire la mafia est une ressource qui permet d'alimenter, de payer, de soutenir. Être entrepreneur de violence, c'est un métier coûteux, il faut acheter des armes, il faut acheter des complicités. Donc, effectivement, les mafias, la vente mafieuse de pétrole, par exemple, en Irak, tout ça concourt à la réalisation. Mais je dirais tout simplement, ce sont des entrepreneurs de violence, c'est-à-dire des acteurs qui considèrent qu'ils ont quelque chose à retirer de cet extrême malheur et de cette totale décomposition de la société. Alors, quand on leur offre comme principale opposition ces chrétiens venus d'Occident, venus du Nord-Ouest, quelle aubaine pour mobiliser davantage en disant « regardez qui vous bombarde, regardez qui vous stigmatise, regardez qui vous dénonce ». Ces raisonnements peuvent paraître absurdes, gênants, choquants, n'empêche qu'ils fonctionnent. Un entrepreneur de violence n'irait pas s'installer dans le Limousin ou dans le canton de Vaud. Il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que l'entrepreneur de violence, il fait écho à une situation de désarroi et de décomposition sociale. Comment voulez-vous combattre tout cela avec des avions et des instruments militaires classiques?
Barack Obama, on va terminer cette première partie avec lui. Il voulait terminer son mandat, sa fin de présidence, en se retirant de l'Irak, de l'Afghanistan, ce qu'il avait fait, en tout cas pour l'Afghanistan. Le voilà à la tête d'une coalition.
Alors, c'est très intéressant l'itinéraire de Barack Obama, parce que je crois que c'est un homme qui a été très conscient, le premier des présidents des États-Unis qui a compris cette conflictualité nouvelle et qui a compris que l'hégémonie américaine, ça ne fonctionnait plus. C'est difficile pour un président des États-Unis de dire à son peuple l'hégémonie américaine ne fonctionne plus. Baghdadi l'a provoqué en décapitant deux des siens. Quelle marge de manœuvre lui restait-il?
Bertrand Badi, nous allons faire une pause afin d'écouter quelques nouvelles du monde et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.